Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Oui, bonjour, chers amis. Je suis heureux de vous parler. Ici Claude Saint-Jacques pour l'émission À vous, à nous et à vous le futur. Et puis, ce matin, ça commence raide, un peu différemment de d'habitude, parce que j'ai ici à l'écoute là, le maire de Farnham, Patrick Melchior, qui va nous parler. On va faire une entrevue à propos de la biodiversité. Bonjour, M. Melchior, vous m'entendez bien?
Oui, bonjour, je vous entends bien. Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Et vous?
Oui, très bien, merci.
Bon, tant mieux. Fait que nous sommes en dialogue présentement à cause d'une résolution d'engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP15. C'est une résolution qui a été proposée par le Conseil régional de l'environnement aux villes de la région de l'Estrie. Et puis, je pense qu'elles avaient comme un mois et demi pour se décider. Puis, 31 villes ainsi que 2 MRC, ça veut dire, je pense, une autre trentaine de villes, là, ont décidé, ce qui apparemment équivaut à 50 % des villes de la région qui ont adopté cette résolution. Est-ce que c'est le chiffre est bon d'après vous, environ?
Oui, 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 ça reflète assez bien. Puis, il y a des villes peut-être qui n'ont pas adopté, non pas qui adhèrent pas à ça. Là, il doit y avoir des fois il y a des questionnements ou des choses comme ça. Mais oui, le chiffre semble bon. Là.
Bon, d'accord. Alors vous, l'objet de l'entrevue, c'est une action spéciale que vous avez faite là, qui est bonne en exemple. Là, c'est vous protéger un marais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait de spécial?
Oui. En fait, ben, d'une part, on a fait la résolution là, en lien avec la COP15. D'un autre part, nous, on avait un projet, on a une tourbière à Farnham qui équivaut à peu près à, je vous dirais, peut-être 400 000 pieds carrés, la tourbière. Au pourtour de la tourbière, on a environ 4 millions de pieds carrés de protégés. Puis, au pourtour, il y a une zone blanche qui était constructible, qui est une forêt, un boisé, si vous voulez, qui est au pourtour. Moi, quand je suis arrivé comme maire en 2017, il y avait un projet de construction de 1000 portes. À ce moment-là, au pourtour de la tourbière, non pas dans la tourbière, on avait les autorisations du ministère et tout de l'environnement. Quand je suis arrivé, j'ai dit, comment peut-on rendre ce projet, à défaut de la volonté d'être le plus possible lié à l'environnement, comment on peut rendre ce projet-là le plus éco-responsable? Donc, suite à ça, on est arrivé, l'équipe a travaillé avec un projet de 400 quelques portes, votre projet vraiment le plus possible éco-responsable et tout, mais l'idéal, c'est vraiment de pas développer. Vous savez, de préserver ce qu'on a comme forêt et tout. Alors, le conseil a pris la décision de mettre le projet sur la glace, de pas du tout développer dans cette zone-là.
Okay.
Le but de développer, c'était d'une part d'aller chercher des sous. Vous savez, les villes, ce qui est malheureux, c'est qu'on vit avec le foncier dans un ordre de 80-85%. Alors, ça nous permettait, on se doit d'offrir un terrain pour une école primaire. Ça nous permettait de le faire. Ça nous permettait de protéger un autre boisé et tout. Mais on a pris la décision de pas développer. Puis, on va trouver d'autres moyens. Là, il y aura d'autres moyens financiers et tout, parce qu'effectivement, Farnham se veut une ville. Vous savez, maintenant, avec le fait de pas développer ça, on est de Sherbrooke à Montréal, toute proportion gardée, on est probablement là ou sinon une des villes avec le plus de territoires protégés. Là. Donc, c'est pour nous intéressant. Là.
OK, félicitations pour ça. Et l'avantage de protéger la tourbière, c'est pour la biodiversité. Puis aussi, je crois que ça absorbe le carbone. C'est bien ça?
Tout à fait. Puis une tourbière, c'est ce qui absorbe le plus le carbone, entre autres choses. On parle de biodiversité. C'est un poumon, hein. C'est ni plus ni moins un poumon. Puis vous savez, c'est important de le faire. Nous, on a pu le faire, mais je pense qu'on va avoir nécessairement besoin d'aide du gouvernement. Puis je veux pas me faire un jugement politique. J'ai vu le budget comme plusieurs personnes et tout. Je pense qu'on se doit de rendre accessible des deniers publics pour protéger des milieux comme ça. Parce que là, ce qu'on qu'on a, on peut exproprier, nous, pour des OBNL, pour des institutions, mais on devrait pouvoir exproprier pour protéger des milieux, puis exproprier à la valeur marchande, non pas à la valeur perdue d'un promoteur. Exemple, un promoteur, un milieu forestier, il dit, ben moi, tu sais, ça va m'enlever sur 20 ans, mettons, tant de millions. Pour nous, ça devient terrible d'exproprier parce qu'on s'expose à des poursuites. Mais si on pouvait exproprier, exemple, le terrain, une valeur marchande, et là, je dis n'importe quoi, de 400 000 $ ben ça nous permettrait à moindre coût de pouvoir exproprier et de protéger les zones parce qu'on est rendu vraiment... Le développement durable, là, c'est plus là. Je suis allé au sommet sur la biodiversité pour les villes à Laval, là, il y a deux semaines, et puis il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il faut parler de développement régénératif. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on développe une zone, pouvoir en régénérer une autre. Donc, nous, on était évidemment que de mettre ce projet-là sur la glace, c'est tout indiqué justement pour dire on protège des zones, puis on fera autrement là pour les deniers, tu sais. Mais on va avoir besoin d'aide du gouvernement. Le pacte fiscal se doit d'être modifié, là, parce que clairement, les villes n'y arriveront pas tout seuls.
Oui, je suis d'accord avec vous absolument qu'il faut modifier ce pacte fiscal-là. Des fois, je vais au conseil municipal comme citoyen aussi, puis j'ai appuyé ma ville dans ce sens-là. Là. Et puis... Ça tombe bien, vous avez parlé de le terme régénératif, là, parce que je vais parler d'agriculture régénérative un peu plus tard dans cette émission. Là.
Ah, bon, ben c'est parfait. Puis oui, l'agriculture, puis vous savez, je fais une parenthèse sur les agriculteurs, mais je vais parler pour Farnham ou pour Brome-Missisquoi, sont très concernés par l'environnement. On a une super belle relation avec les agriculteurs qui veulent aussi être en mode solution. Mais partout, lorsqu'on parle de protection de l'environnement, ce que j'entends de tout le monde, c'est qu'on va avoir besoin de travailler le faire ensemble. Oui. Et puis, on va avoir besoin de donner, de dire que il faut investir, il faut rendre la protection de l'environnement. Là, moi, je parle tout le temps du principe d'économie, et non pas d'économie, mais d'économie pour l'écologie, de dire que ça a une valeur, une tourbière, tu sais, ça a une valeur pour l'humanité et tout. Donc, faut investir à ce niveau-là.
Oui, c'est merveilleux de vous entendre. Il y a Jérôme Duprat qui va dans le même sens, l'écologie, économie, là, je sais pas trop. Là.
Oui, bien, il faut. C'est un incontournable maintenant. Moi, j'ai deux enfants, puis il y a plein de monde qui ont des enfants. J'ai deux ados, puis un presque adulte. Mais je veux leur laisser quelque chose de... Je veux leur laisser une planète le moins amochée possible. Puis je veux pas... Tu sais, on parle beaucoup d'éco-anxiété, puis je trouve ça dommage d'en être rendu là, puis il y a plusieurs personnes qui en souffrent. Et je dirais presque avec raison, parce que, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai peut-être naïvement, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire, puis, mais il faut le faire ensemble, puis il faut qu'on mette ça de l'avant. Maintenant, dans tous les projets, dans tous dans toutes les réflexions, il faut que l'environnement, là, un peu comme l'échelle de Maslow, il faut que l'environnement soit en haut. Là.
Oui, d'accord. Mais encore une fois, je vous félicite pour ça. Les enfants et les ados qui vous entendent doivent avoir un petit soupir de soulagement. Là.
Et puis, bon, ben merci.
Des aînés aussi, là. Moi j'en suis un, mais les aînés sont conscients que ça les touche également.
Et, tout à fait.
Est-ce que vous ressentez de la solidarité de la part des, on va dire, 31 autres villes qui, comme vous, ont adopté la résolution?
Oui, vous savez, moi, je suis préfet de la MRC de Brome-Missisquoi aussi, là, en étant maire, puis maintenant, c'est rendu dans toutes les discussions, puis toutes les villes sont en mode solution. On sent vraiment qu'il y a une mouvance, on sent vraiment qu'on a la mouvance, on a la conscience aussi au niveau de l'environnement de la part des maires et tout. Puis qu'importe que des maires soient plus jeunes ou plus âgés, parce que on a des maires qui sont des maires dépassés la soixantaine qui ont cette même conscience-là. Alors moi, je trouve ça extraordinaire parce que on se rend compte que c'est l'affaire de tout le monde. Oui. Puis ça devient de plus en plus l'affaire de tout le monde. Puis avant, j'avais l'impression qu'on disait, ben d'autres le feront. Mais maintenant, ce qu'on dit, ben c'est les autres, venez-vous avec nous parce qu'il faut le faire ensemble. D'accord. Alors, je trouve ça très bien.
OK. Et moi, vous êtes le premier maire que j'interviewe, là, mais il y en a une soixantaine. Qu'est-ce que je devrais faire d'après vous? C'est-à-dire que je me sens que ça prendrait une rencontre collective, soit à l'Agora ou par Zoom, pour mettre plusieurs maires ensemble pour parler de ça, pour qu'il y ait une interaction. Est-ce que vous avez des suggestions pour aller plus loin dans ce sens-là avec les médias?
Ben en fait, c'est une très bonne idée. Peut-être, ça peut être révolutionnaire de dire on a plein de maires, tu sais, une table ronde qui dure puis qui est enregistrée, qu'on peut mettre. Puis là, je ne sais pas les formules, mais nécessairement, c'est une bonne idée de rassembler tout le monde ensemble. Puis vous savez, c'est pas l'affaire d'une discussion. Donc, il doit en avoir, ça doit devenir récurrent. On doit en parler, en reparler. Évidemment, les actions se font à travers tout ça. Mais il faut garder le dialogue au niveau de l'environnement. Faut pas que ça soit un sujet ou faut pas que ça soit un événement. événement. Faut que ça soit une routine. Faut qu'on en discute. Donc oui, c'est une bonne idée de rassembler à tout le moins quelques maires ensemble pour faire une table ronde et tout. Mais je peux vous assurer que plusieurs maires vont dire présent parce que okay. Je vous le dis là, il y a une mouvance intéressante qui se fait. Bon.
Peut-être que le Conseil régional de l'environnement pourrait jouer un rôle là-dedans.
Oui, j'ai eu une rencontre d'ailleurs avec le Conseil régional de l'environnement la semaine dernière. On a discuté, puis je trouve vraiment que c'est une belle organisation. Puis vous savez, c'est important de pour pouvoir aller chercher les personnes qui sont pas encore conscientisées. Faut aller les chercher. Donc, faut pas l'aspect répressif en toute chose. Ça n'a pas d'allure que vous croyez pas à l'environnement et tout. C'est pas comme ça qu'on va les avoir. Faut démontrer, tu sais, un peu comme un parent qui est avec son enfant, l'instinct de mimétisme, développer ça. Faut démontrer que ça a du bon l'environnement. Donc, allons chercher ces personnes-là pour leur montrer le plus-value parce que c'est nécessaire maintenant. On a vu les rapports de la GIEC, on voit tout ça, là. Alors, d'aller chercher les gens, de leur donner l'envie de faire quelque chose, ça, je pense, c'est très important.
Bon, merveilleux. Est-ce que vous avez une ville à me suggérer que vous connaissez qui fait des choses semblables aux vôtres, là, ou qui pourraient être différentes?
Ben écoutez, je pense que je vais parler de Bromissiqua, mais les villes de Bromont et de Coansville travaillent très très fort au niveau de l'environnement aussi. Okay. Je pense que ça peut être des personnes là, qui sont bien impliquées okay. à ce niveau-là. Donc, mais j'ai l'impression que à quiconque vous parlerez dans Bromissiqua, il y a une conscience environnementale. Alors, vous avez l'embarras du choix. Sincèrement, okay. là, j'en suis très fier de vous dire ça. Ça démontre qu'il y a une volonté. Là.
Ok. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut clore l'entrevue là-dessus. Je vous sais occupé. Et puis, vous avez été extrêmement gentil. Je vous remercie beaucoup. Et à une prochaine, peut-être.
Ben oui, à une prochaine. Puis, continuez d'interpeller les gens, parce que je pense que ça va faire des petits. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi, M. Melchior. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Oui, bonjour, ici Claude Saint-Jean pour l'émission À nous le futur. Je remercie le maire Melchior de Farnham que je viens d'interviewer. Et puis, nous passons maintenant aux nouvelles, ce que j'étais censé faire au début de l'émission. Il y a eu lundi la Fête internationale du bonheur. Et paradoxalement, en même temps, il y a eu le rapport du GIEC sur le changement climatique. Alors, j'ai quelque chose à dire sur le bonheur, puis après ça, je parlerai du climat, qui est moins heureux. Mais les deux se complètent et s'enrichissent l'un l'autre. Alors, l'agenda du bonheur pour les 10 prochaines années, bien, j'ai 5-6 points, là. On sait qu'il y a des gens qui s'occupent du bonheur. C'est le World Happiness Report, qui est écrit une fois par année, que je reçois. Moi, je suis bien content. Et vous aussi, vous pourriez. Vous êtes juste à pitonner World Happiness Report. Alors, on dit qu'une fois que le bonheur est accepté comme objectif du gouvernement, cela a d'autres effets profonds sur les pratiques institutionnelles. La santé en particulier, la santé mentale, est encore plus prioritaire, tout comme la qualité du travail, de la vie familiale et de la communauté. Ce qui veut dire que ces gens-là souhaitent que les gouvernements s'intéressent au bonheur dans leurs institutions. On veut qu'il n'y ait pas d'inégalité dans le bonheur et on veut de la bienveillance. Les données pour 2022 montrent que les actes pro-sociaux restent environ un quart plus fréquents qu'avant la pandémie. La confiance dans les gouvernements nationaux a augmenté en 2022 dans les deux pays, c'est-à-dire Ukraine et en Russie. Le soutien ukrainien au leadership russe est tombé à zéro dans toutes les régions de l'Ukraine en 2022. Et dans le chapitre 3, le bien-être et l'efficacité de l'État, on dit que l'efficacité du gouvernement a une influence majeure sur le bonheur humain et du peuple. Bien sûr, on dit que les stratégies collectives de collecte et d'agrégation de données ont évolué de l'analyse du flux aléatoire aux analyses d'échantillons démographiquement caractérisés d'utilisateurs à une nouvelle génération émergente d'études de conception de cohortes numériques dans lesquelles les utilisateurs sont suivis au fil du temps. Donc, c'est un peu ce que je peux retenir, là. Si vous avez des demandes pour le rapport, bien, vous pouvez envoyer à info@commercial World Happiness Report et vous allez avoir toutes les réponses. Maintenant, bien, ce même lundi passé, on a eu le rapport du GIEC, la dernière mouture, le 20 mars. Là. Puis je ne vous dirai pas tout ce qui est dit, évidemment, on est encore dans l'analyse de tout ça, mais j'ai 4-5 articles là, et on dit que l'action climatique ne peut plus attendre. On ne peut plus remettre ça en dessous du tapis. Ensuite, 4 humains sur 10 sont atteints par les changements climatiques. On dit aussi que c'est un guide de survie pour l'humanité. Ça, c'est le devoir, le 20 mars. On dit que l'humanité brûle ses dernières chances de limiter le chauffement climatique. Il faut prendre ça au sérieux. Et des changements immédiats nécessaires pour éviter le pire des changements climatiques. Ça, c'est le soleil. Et du côté des Nations Unies, évidemment, le 20 mars, elle a parlé. Elle a dit que le GIEC publie son dernier guide de survie pour la planète. Et finalement, le lendemain, le 21 mars, l'ONU dit que les forêts saines, la planète saine, les êtres humains en bonne santé, voilà ce que permettent les forêts si on en prend soin. Alors, ici à Sherbrooke, je pense qu'on est sur la bonne voie et je nous encourage à continuer. Vous savez que le groupe Environnement Nature International là, fera une rencontre des scientifiques internationaux à l'Hôtel Delta en octobre prochain pour parler en plein de ça, c'est-à-dire les forêts et la santé. Et puis, j'ai deux livres à vous parler. C'est Edgar Morin, qui s'appelle « Pour résister à la régression ». Edgar Morin dit que ces dernières années, nos sociétés ont été bousculées, meurtries et secouées. Régulièrement, l'Aube a publié des dialogues d'Edgar Morin. Et puis, le lecteur pourra donc, j'espère, trouver dans les textes ici réunis éléments et aliments à sa réflexion, invitation à repenser et incitation à la résistance. Toute régression doit stimuler une résistance. Et toutes les résistances constituent des îlots de sauvegarde des valeurs essentielles pour nos vies et en même temps d'éventuels points de départ pour un renouveau transformateur, dit Edgar Morin. Puis l'autre livre que j'ai à vous suggérer, je l'ai trouvé à la bibliothèque de l'université, ça s'appelle « Une école sans mur » de Rabindranath Tagore. Il s'agit d'art de nature et de cosmopolitisme au cœur de l'éducation. C'est un livre écrit par Normand Baillargeon et Chantal Santerre chez Éco-Société. Alors, M. Tagore, c'est un poète indien là, des Indes qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et puis, on dit que nous avouons à être très intéressés par le fait que Tagore, qui était lui-même un grand artiste, ait tant mis l'accent sur l'art, sur la littérature, sur la danse, sur la musique, et ainsi de suite, dans son idéal d'éducation. Tout cela n'est pas très populaire de nos jours et il faut typiquement beaucoup de travail pour défendre l'idée que l'on devrait faire aux arts une place, même pas très grande, à l'école. Et Tagore disait que de toutes les créatures vivantes habitant le monde, l'humain et lui seul possède une énergie vitale et mentale qui dépasse largement ses besoins. Cela le pousse à s'activer, sans autre but que cette activité elle-même, dans divers domaines de la création, comme Brahma lui-même. L'humain s'amuse dans des productions qui lui sont inutiles, mais qui manifestent sa prodigalité. Alors, un fait intéressant, c'est que à la fin de ce livre-là, il y a un entretien avec Amartya Sen, qui était un étudiant de l'école que Tagore a mis sur pied, et cet étudiant a gagné aussi le prix Nobel de littérature. Donc, dans un même livre, vous avez deux prix Nobel. Alors, maintenant, nous allons passer à une musique, c'est « La danse de Saint-Dilon ». Ça réveille. C'est Gilles Vigneault, n'est-ce pas? Puis il a publié un disque récemment, c'est comme une chanson d'amour, c'est très beau. Et le conteneur est une pièce en soi très, très jolie. Et puis la danse de Saint-Dilon, ça vient de la maison d'Odilon Carbonneau à Natashquan qui a inspiré Gilles Vigneault. Alors, c'est parti.
Il n'y avait pas grand chose à faire. On a dit on fait une danse, on va dans chichi pipi. On s'est trouvé un violon, elle s'en va des partenaires. Puis là la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marie en a sa belle robe et puis voilà la c'est je pleuve. Bon ami, c'est une danse, des côtes et puis c'est beau grand. Ça m'a fallu tout ça quand ça vient d'arriver du couvre. Et aussi Jean-Marie, vous vos habits, mon avis. Car elle sa belle habille avec ses petits souliers vernis. Le flobby, comment dit comme un combi voyageur. C'était beau de les voir danser, madame. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour des embrassages, c'est horrible, puis ça va vite, ils vont pour passer des temps. Ils vont pas se faire violent, si vous voulez pas être sage, je suis parti tout de suite, tiens, il t'aime pas sur ça. Tout le monde balance, depuis tout le monde danse, j'aime danser avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Tu vois bien d'arriver avec tes races à ses côtés, ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Mais ça, son ami Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti quand il s'habille dans le monde de l'anticosti, il est parti à beau samedi, quand même on dit malfaiteur. Qui reviendra, Cadine, Cadine. On dansait toute la soirée, le banc des villes allongeuses, puis leur combo dans la cage, et puis nous ne pas aimer. C'est Charlie qui a tout collé, a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre un bagage, prends ma femme plus pour lui. Un dernier tour, la chaîne des dames avant de sortir, on m'en serrer la main plus fort, on m'en garde des crèmes, on m'en dit, on reçoit pas les bœufs, j'irai du bain, j'irai du bain. Salut, posez tout, on ne va jamais virer comme ça. Me flotter, tu te dis, mon amour et mon ami, c'est physique qui s'est mis à la tournée comme une topie, à la gobubie, à la tille, il est mort, il est jeudi, ben ça fera si ton bonheur. Il dit oui, ça ferait trop pour lui qu'à son béton. Un petit gars t'a dit non, pas à cause d'un prêtre, fille, il a fait virer si vite, il ne peut plus s'arrêter. Pour un petit homme violent, avoir la toute sa famille, avoir cette amie en vite, il va peut-être la réinviter. Yot, ta gamine, bisou, la main de l'ennemi, yot, ton chiffon, bisou, la main de l'eau, swing la forme, et puis ton zikon, et puis vas-y, voir que t'es pas mort, changer de compagnie. Prends la tienne, puis laisse la mienne, si tu la laisses pas, tu vas pas le pot.
Voilà, bienvenue à Nous le futur. C'était Gilles Vigneault, ce grand poète et chanteur québécois. Et j'ai une anecdote à ce propos, c'est que Gilles Vigneault, parfois, il oubliait le texte de cette chanson-là. Alors, il a été obligé d'avoir devant lui un souffleur là, qui faisait rouler les mots, dérouler les mots. Fait que ce qui est drôle, parce que c'est lui qui a créé la chanson, puis ça lui prend un dérouleur de mots pour se rappeler de ce qu'il a écrit. Cependant, Pauline Julien, qui chante Gilles Vigneault, elle savait complètement toujours par cœur cette chanson-là. C'est l'anecdote en question. Alors, maintenant, je reviens à un thème de la semaine passée, un thème dont j'ai parlé quelques fois. J'espère ne pas revenir encore, mais je parle d'un géant de la pensée. Il s'agit de Buckminster Fuller, qui a dit tout ce qu'il savait en 48 heures dans une vidéo. Moi, j'ai trois choses à vous dire, là, que j'ai oublié de vous dire l'autre jour. Alors, donc, Buckminster Fuller a dit, c'est le seul qui l'a dit en premier, là, que l'humanité est capable de se donner un monde de façon écologique et pacifique où il n'y aurait plus de misère et de pauvreté. Or, toute la culture humaine existante, disait-il, a été créée dans un contexte de rareté. Mais pour une fois que nous avons un contexte ou un nouveau potentiel, ça fait que toute la culture humaine actuelle, elle est obsolète, désuète. Et lorsque son potentiel sera réalisé, c'est-à-dire qu'il y aura zéro pauvreté sur Terre et que l'écologie sera respectée, eh bien, il y a une nouvelle culture humaine à créer. Ça, c'est le point que j'avais oublié de dire la semaine passée. Ensuite, il y a un autre point. Je vous avais dit que pour lui, l'univers, c'était ce qui est physique et ce qui est métaphysique. En d'autres mots, c'est l'énergie plus le savoir ou l'information. Et l'énergie, disait-il, bien, tous les physiciens et physiciennes savent ça, ne peut décroître. Et l'information, toutefois, ne peut que s'accroître. Donc, même si on fait une erreur, l'information s'accroît. Quand on fait une erreur, on apprend plus et l'information augmente. Autrement dit, la richesse augmente toujours. Puisque l'information augmente toujours. Ce qui veut dire que notre système économique n'est pas du tout le reflet de comment fonctionne l'univers. Par exemple, l'inflation nous appauvrit, alors qu'en réalité, la richesse augmente. Deuxièmement, la loi de l'offre et de la demande. Au nom de cette loi-là, pour garder les prix élevés de la nourriture, on en jette, alors qu'il y a des millions d'affamés, je crois des milliards, peut-être, c'est exagéré, milliards, mais au moins un milliard d'affamés. Et puis, également, on paye des agriculteurs pour ne pas produire afin de garder une sorte de rareté de nourriture. Ce qui veut dire que le système économique actuel, il faut le remplacer. Point final. Et troisièmement, Buckminster Fuller, je vous rappelle qu'il a travaillé à Sherbrooke en 1914, au moulin à coton sur la rue du Pacifique, qu'il a eu 45 doctorats honorifiques plus tard, que c'est lui qui a fait le dôme géodésique, le pavillon des États-Unis à l'exposition 1977, qui est encore là, sur l'île Notre-Dame, Et si Buckminster Fuller disait que nous avons assez de ressources pour que tout le monde vive bien, c'est grâce à la synergie, l'art de faire plus avec moins, de matériaux et d'énergie. Et de, ouais, c'est ça. Fait que, donc, il avait fait une innovation intéressante. Il avait inventé plusieurs sortes de dômes, dont un dôme pour l'habitat. Il se donnait comme but de loger l'humanité dans un minimum de temps possible. Et sa stratégie, c'était de produire le dôme, là, qu'il appelait le Fly High Dome, dans des usines d'automobiles désaffectées et les réactiver puis les réoutiller avec de l'équipement de l'industrie spatiale qui est au millionième de pouce. Alors, avec ce genre d'industrie-là, il ferait 2000 maisons par jour facilement. Et puis, cette maison-là, qui est autonome en énergie, autonome en nourriture et qui recycle ses déchets, pour écouter le coût d'un téléphone. Disons que ça pourrait être 60 $ par mois. Fait que à Sherbrooke et toute l'humanité pourrait avoir une maison, ça serait un problème de moins à régler. Fait qu'autrement dit, ce que lui appelait le succès de l'humanité ou la réussite de l'humanité ou bien la frugalité universelle, c'est possible, ça nous pend au bout des pieds, au bout du doigt. Ça fait 3 générations que c'est possible, puis on ne l'a pas encore fait, mais on peut encore se reprendre. Et j'ai dit que, la semaine dernière, j'ai dit aussi que pour se reprendre, il y avait, exemple, réparer le tissu déchiré du monde, le livre Les Tisserands qui donne des voix. Puis ce matin, on va commencer une agriculture qui répare la planète avec l'agriculture régénérative. J'en ai pour 3 ou 4 émissions là-dessus. Là. Fait que, gardant en mémoire que la planète pourrait être très bien traité écologiquement, qu'il pourrait ne pas y avoir de guerre et que tout le monde pourrait très bien vivre en satisfaisant leurs besoins. Fait que j'ai fait 2 petits poèmes pour exprimer ça. Le premier, c'est avant que ça arrive, puis le deuxième, c'est une fois que c'est arrivé. Fait que je me lavais les mains, puis ça m'a donné cette idée-là. Fait que je me lave les mains de cette culture sale qui sans cesse fait cette besogne sale. Toute cette surconsommation sale, je me lave les mains de cette culture de misère. J'ai le goût d'entrer dans une nouvelle ère, celle de zéro misère, celle de zéro maladie de l'air. La reine rareté n'est plus sa majesté. Je veux pour tous la prospérité. C'est ça la propreté. Maintenant, mes mains sont lavées. Le deuxième poème. Le récit futur ou présent. Alors, ça dit que, premièrement, puis un de mes amis m'a dit que je rêve en couleur. Mais c'était ça le but, rêver en couleur. L'humanité va bien. Tout est plein de savoureux liens. Chacune se sent bien. Le bonheur est un précieux bien. Tout le monde vit bien. La terre est réparée. Le tissu déchiré du monde, c'est du passé. Personne ne se sent séparé. L'air et l'eau sont propres. Chacune en a assez en propre. Émerveillement, beauté à profusion. De ça, on se voue à la conservation. Les crises multiples, nous les oublions. De la pleine santé, on en jouit sans condition. On ne reçoit que des félicitations. La nature aime ce futur été. Les animaux sont vénérés. L'égalité homme-femme est assurée. Dans la diversité, honorée. Tout est sourire, ça a déjà été pire. Qui veut prendre la parole avant qu'elle ne s'envole? Car dans la nouvelle ère, la pensée se transmet par l'air. De quoi on a l'air? Facile et beau, ça en a l'air. Du haut des êtres, ça se voit qu'on sait être. Nourriture délicieuse, agroécologie pieuse, tout a du sens. Avec plaisir, on s'encense. La pensée pure, on pense. Pendant que de l'Elvis, on danse. Baignant dans l'infini danse. Et oui, l'humanité va bien. Ainsi, je la pense. Je sculpte idéalement cette ambiance. L'audace est permise et en écrivant ce futur ou présent, j'y mords à pleines dents. Je suis dedans. Ah, ah, ah.
C'est que même en voulant pour être dedans, c'est pareil, je suis dedans jusqu'au nord. Mais c'est que tout à l'eau, avec un cœur en plein milieu, des yeux et des aïeux, au bout des cheveux et ma queue entre mes longs jeux. Me blanc, tout pitché. Girl, drop et submarine, tout plaillé comme une garnotte, tout scoré. Me blanc dedans. Oh bébé, je suis pas tout à fait dedans, mais ça s'en vient. Tranquillement, c'est ça.
en montant tout le temps. Yeah.
C'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, chutant jusqu'au sol, jusqu'au dents. On pèse l'équipe à l'eau, avec une croix en plein milieu des yeux. Mon bouton fort en coup de castor et tout mon corps qui crie maintenant. Me blanc, me blanc, tout pitché. Bird, crop et submarine, flyé comme une garnotte, tout scoré. Me blanc, blanc, oh bébé. J'suis pas tout à fait dedans, mais ça sent bien. Tranquillement, c'est ça, en tirant, en poussant, tout le temps, tout le temps. Chutant, à plein temps jusqu'au dents. Le drame, c'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, chutant jusqu'au sang, jusqu'au dents. On baisse l'équipe à l'eau, avec une bombe en plein milieu des yeux. Un bord de travers dans mon joint, mon grand membre vert, un bon pour meuble, meuble, tout pitché. Girl, drop et submarine, flyé comme une garnotte, tout scoré, meuble à dents. Mon bébé, là je pense que chutant, ça s'en vient tranquillement, c'est ça. En grimpant, tout le temps, yeah!
Oui, bonjour, c'était Fou Manchou de Charlebois à l'émission À nous le futur. Ça a peut-être été écrit par Pierre Bourgault. Alors, je vais continuer dans mes nouvelles avant d'entrer dans les dossiers. Les dossiers, c'est sur le longévisme cette semaine, le longévisme sur le plan de l'individu et sur le plan de la collectivité aussi. Parce que si on veut durer, il faut une bonne agriculture qui absorbe le carbone et qui nous nourrit comme il faut. Fait que c'est ça, le longévisme, c'est le thème. Puis, comme nouvelle, il y en a une qui est pressante, là. Il va y avoir des forums citoyens bientôt à Sherbrooke. Bon. Il faudrait que vous regardiez ça. J'ai les dates décrites, là. C'est 31 mars et 1er avril, justement. Et puis, pour les trouver, vous pitonnez Forum citoyen sur l'éducation, puis vous devriez avoir ça. Donc, Forum citoyen, parlons éducation. Place aux jeunes. Il y a un document de participation qui est disponible, de, je sais pas, une vingtaine de pages, là. Et puis, on vous parle de repenser la mission de l'école. On vous parle aussi, les thèmes, là, ça dure deux journées. Hein. Ici, ça sera au cégep. Repenser la mission de l'école d'aujourd'hui et de demain. Construire un système d'éducation équitable pour tous les élèves. Encourager l'inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires. Respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires. Et le thème 5, c'est démocratiser les systèmes scolaires québécois dans toutes ses composantes. Alors, ça dure vendredi soir et samedi, toute la journée au cégep à Sherbrooke, là. Et pour vous renseigner, c'est Forum citoyen parlant éducation dans Internet. Alors maintenant, autre nouvelle, c'est l'agriculteur québécois Jean-Martin Fortier. C'est un grand innovateur qui a réussi à produire beaucoup plus que les autres agriculteurs du monde, là. Il a innové dans ce sens-là. Sur un hectare, il a beaucoup augmenté la production, de sorte que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'acheter des centaines d'hectares. Un seul suffit, si on suit sa méthode. Donc, Jean-Martin Fortier se lance aussi dans la restauration. Il a le souci d'une agriculture bienveillante et humaine. Et puis, c'est à l'espace Old Mill à Stanbridge East qu'il part son restaurant. Vous savez qu'il s'occupe aussi de la ferme des Quatre Temps, puis qu'il a des serres, là. Il fait de l'agriculture l'hiver, du maraîchage nordique. Puis en même temps, il a une auberge. On dit qu'il récolte ce qu'il a semé, qu'il a réinventé la table fermière. Et je vous donne une idée du menu de saison, là. Une salade de serre, un chou-rave frais et braisé au cidre, et un surlonge de porc de pâturage idéal, cavatelli aux carottes et kale au vinaigre. Mais en tout cas, vous pouvez voir le menu à son auberge. C'est censé être ouvert, là. C'est du mercredi au vendredi de 17h à 23h. Et puis, il va y avoir des chambres disponibles après le 30 avril. Et aussi, je voulais vous parler du concept d'éco-région. Mais c'est un concept qui existe surtout en France. Mais comme on, suivant l'entrevue de ce matin là, avec le maire de Farnham, on peut se rendre compte que la région de l'Estrie, c'est une éco-région qui est en construction parce qu'il y a 60 villes qui s'intéressent à la biodiversité. Et puis, dans la réforme de la démocratie dont je parle parfois, j'ai trouvé un texte intéressant, « Ce qu'est la démocratie » de Sylvain Rochex, R-O-C-H-E-X. Ça m'a surpris parce qu'il y a au moins 29 ingrédients qui font partie de ce que serait une véritable démocratie. Par exemple, « Demos », ça veut dire le peuple, « Kratos », ça veut dire la force, le pouvoir. L'égalité politique, ça s'appelle « l'isonomia », parce qu'on s'inspire de la démocratie athénienne. Et l'exercice et la souveraineté de l'Assemblée populaire, c'est l'ecclésia. L'idée de représentation, c'est inexistant parce que les gens, c'est la participation directe citoyenne. L'idée de la police, P-O-L-I-S, c'est la cité qui est indissociable de l'isonomia, c'est-à-dire que où toute personne possède la même quantité de pouvoir. Il y a une réflexivité permanente qui s'appelle la philosophia. Il y a la centralité de l'initiative populaire, une constitution d'origine citoyenne, une participation effective de tous et toutes au pouvoir, un tirage au sort comme méthode de désignation centrale des magistrats. Et les magistrats sont des serviteurs, non des maîtres. Et puis leurs mandats sont impératifs, courts et non renouvelables. Le contrôle citoyen est un régime fondé sur la défiance à l'égard des magistrats et des institutions qui poussent à la vertu et non à l'omerta, on va dire. Il y a un principe de révocabilité des magistrats, une reddition des comptes, une procédure de mise en accusation publique, si c'est en cas de besoin, un amateurisme politique, c'est-à-dire que ce serait mieux de ne pas avoir de professionnels de la politique. Les partis politiques existent en tant que menace oligarchique et il n'y a pas d'honneur ou de distinction donnée pendant les mandats, c'est après. Il y a l'institution de l'ostracisme. Il y a une éducation en vue des affaires communes qui s'appelle PAEDIA. Je connais un livre qui est juste à ce propos de Willis Harman. On va en parler plus tard. Il y a la parésia, qui est le franc-parler, le courage de la vérité et plus encore. Et l'iségoria, c'est le droit de parole pour tous à tout moment et à tout propos. Ainsi que l'agora, c'est un lieu pour les débats. Et il y en a un ici à l'Université de Sherbrooke, ça s'appelle comme ça, l'agora. Il y a un écart de richesse le plus petit possible au sein des populations. Une publicité totale des éléments ayant attrait à la chose publique. Je ne suis pas sûr qu'ici, c'est toujours le cas. Il y a une recherche de la philia, c'est-à-dire une amitié au sens large, qui est le but de la cité. Et imaginez-vous, le théâtre, c'est une institution protectrice et aussi éducative en vue d'une bonne démocratie. Alors, j'ai imprimé un texte d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Sommes-nous en démocratie ?» C'est une conférence théâtralisée avec Sylvain Rochex et Gérard Volant. Si vous avez le goût d'aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Une pièce de théâtre de 1h27. J'ai regardé ça hier. Et finalement, comme dernière nouvelle, là, je voudrais vous parler de la communication non-violente. Bon, c'est des cours qui se donnent. Et puis, il y a des listes de mots qui peuvent aider à identifier les sentiments, parce que c'est pas toujours évident d'identifier des sentiments. J'ai ici au moins 60 mots. Je vous en dis comme ça au hasard, là. Abandonné, abattu, accablé. Affaibli, affligé, affolé, audacieux, crédule, exalté, furieux, je veux dire le reste au féminin, gêné, gentil, grave, incrédule, indécis, indépendant, indigné, indisposé, surexcité, tendu, terrifié, vaillant, vaincu, valorisant, vertueux, vexé, vif, vive, vigoureuse, violente, vulnérable. Alors, c'est ça, c'est un exemple. Il y a un paquet de vocabulaire disponible dans la littérature sur la communication non-violente. Alors, on passe à une musique qui s'appelle « Je crois reflet ». Oui, bonjour, ici Claude Saint-Jean, CFAX, bien sûr, à nous le futur. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pièce de théâtre comique sur la démocratie. Juste deux expressions que j'ai relevées. Le taux de morbidité civique et la glande démocratique de quelqu'un est atrophiée dans son cerveau. Alors, c'est plein d'originalité comme ça. Et puis, ben là, je pense que je vais rentrer dans les deux thèmes particuliers du thème général longévité. Bon, puis d'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de temps, là, mais en tout cas, fait que, il existe une médecine de longévité qui s'appelle la médecine de demain. C'est Christophe de Jaeger, entre autres, qui l'a développée. Et puis, un article de lui, là, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre à son propos, qui dit qu'il s'agit de biogérontologie et que les tissus, on peut même les régénérer. Il faut inclure le volet de longévité dans la médecine. Puis, comme par hasard, ce matin, je voyais dans Le Devoir un article à propos de personnes âgées dans une résidence de personnes âgées, RPA, qui joue une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Gules », joue la comédie en se jouant de la vieillesse. Alors, l'âge, c'est juste un chiffre. La vieillesse, ce n'est pas obligé d'être un mouroir, dit quelqu'un qui joue dans la pièce de théâtre. Et c'est, ils appellent ça une aventure théâtrale. Je vous encourage à lire ça, c'est intéressant. Et le Christophe de Jaeger, en question, dit que pour la première fois dans l'histoire de la médecine, nous disposons d'instruments susceptibles de mesurer le vieillissement d'un individu. C'est l'âge physiologique. C'est une notion fondamentale sans laquelle aucune prise en charge sérieuse du vieillissement ne peut se concevoir. L'âge physiologique se définit par l'âge fonctionnel de nos organes, l'âge de nos artères, de notre cœur, de nos poumons, de notre cerveau, en opposition avec l'âge chronologique défini par une date de naissance. On peut optimiser l'âge physiologique. Le bilan prend à peu près 6 heures. Ça se fait en France seulement pour le moment. Et puis, j'ai bien hâte que ça se fasse à Sherbrooke. Il y a une prise en charge des patients, là, par exemple, par l'immunonutrition, par l'exercice physique. C'est le dépistage des maladies pour éviter l'augmentation de la rigidité artérielle, pour corriger les carences hormonales. Et puis, il y a un plan purement physiologique et fonctionnel pour que nos capacités, au contraire de diminuer, augmentent. Le rôle des gens comme moi, dit-il, c'est-à-dire c'est un médecin gériatre, c'est d'amener les gens à vieillir le mieux possible, c'est-à-dire à rester parfaitement autonome pour profiter de la vie, et surtout le plus longtemps possible. Ça prend une médecine préventive, qu'on ne voit pas beaucoup ici, mais cela prend du temps et a un coût. Notre grande force est de pouvoir proposer un bilan global et pas seulement cardiaque ou pulmonaire. Les gens qui viennent nous voir ont très peur de mal vieillir. Leur première motivation n'est pas d'être immortel ou de prolonger leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est bien vieillir le mieux possible. La longévité humaine, dit le docteur Christophe de Jaeger. Moi, je dis Jaeger parce que ça s'appelle J-A-E-G-E-R. Je ne sais pas si je le prononce bien. La longévité humaine maximale est actuellement de 120 à 125 ans. Il s'agit d'une notion très théorique. Ce qui tue, les accidents et homicides mis à part, ce sont les maladies chroniques. Ceux-ci n'apparaissent pas du jour au lendemain. Dans la plupart des cas, si l'on prend par exemple un infarctus du myocarde, celui-ci survient après plus de 30 ans de dégradation de l'artère. Alors pourquoi de l'artère? Pourquoi attendre? Le docteur Christophe Jaeger dit que le vrai problème de cette médecine anti-âge ou médecine de longévité est son caractère révolutionnaire au plan purement médical. On s'appuie sur les connaissances de physiologie et sur des raisonnements différents de ceux employés habituellement en médecine de soins, celle qui traite la maladie et celle qu'on connaît le plus. Notre centre, ce qui est à peu près le seul en France qui offre ça, là. Pourquoi la médecine anti-âge a-t-elle si mauvaise réputation, lui pose un journaliste. Eh bien, c'est que la médecine anti-âge est totalement galvaudée. On la voit à toutes les sources. Elle n'est, pour certains, qu'un argument marketing. D'autres ne font que quelques dosages biologiques et tirent des conclusions simplistes. D'autres encore confondent médecine anti-âge et médecine esthétique. La médecine du vieillissement est en fait une spécialité extrêmement complexe qui s'appuie sur des tests physiologiques et des dosages spécifiques. Donc, elle est une prise en charge physiologique de haut niveau. Il existe des programmes anti-sénescence. auquel nous n'avons pas accès beaucoup. Mais par contre, il y a des choses intéressantes ici, là, des conférences gratuites sur l'activité physique et sur l'alimentation, par exemple, et la gestion du stress qui se passe à Sherbrooke. Fait que là, je vous ai parlé de longévité sur le plan individuel. Et pour question d'équilibre, je vous parle de longévité sur le plan de l'humanité. Les multinationales empêchent de résoudre le problème du climat, dit Vandana Shiva au journal Reporter que vous trouvez dans Internet facilement. Vandana Shiva est autrice avec Jacques Capla et André Lieu du livre « Une agriculture qui répare la planète, les promesses de l'agriculture biologique régénérative ». Alors, le mot « régénératif » a été employé par le maire Melchior que j'ai interviewé au début. C'est qu'il pense désormais pas le développement durable, mais le développement régénératif. Alors, il y a de la convergence des idées, là, au niveau de la régénération et du longévisme, c'est-à-dire longévisme individuel et collectif. Le système agro-industriel, dit Vandana Shiva, est un contributeur massif au réchauffement climatique et qui se montre incapable de résoudre les problèmes environnementaux et alimentaires de la planète. L'agriculture industrielle intensive utilise des engrais issus de combustibles fossiles et ils ont un coût environnemental élevé. Ils sont aussi issus, je ne sais pas si vous saviez ça, là, d'armements de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme ça que ça a commencé. Les résidus des armements non utilisés ont servi à faire des engrais. Alors, l'agriculture industrielle, cependant, ne produit que 30 % des aliments consommés par les humains. Ce n'est pas de la vraie nourriture, seulement des denrées de marchandises. Tandis que 70 % des aliments proviennent d'une agriculture paysanne et c'est une vraie nourriture. Alors, c'est une introduction douce et limitée à deux thèmes de plusieurs émissions. Là. C'est le longévisme. Après une chemise d'un pouce d'épais, je vais arriver au livre qui s'appelle « Une agriculture qui répare la planète ». Et puis, il reste deux minutes, fait que je vous dis bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je remercie Emma de nous avoir mis en onde et d'avoir choisi la musique. Et écoutez bien ça, ce qui s'en vient. Je pense que c'est « La marée monte » d'Alex Doré. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude, de la joie. Et commencez à penser à votre âge physiologique tout de suite.